Claire et Trian Furly-Hull en l'attestent au Valais sauvage. Claire et Rian étaient les yeux sur le visage du jeune homme sauvage, Chrétien de Troyes. Partie 1. Mère.
Mon poussin, ma toute petite, moi qui t'ai formée au rythme des secrets de mon ventre, je t'ai vu finalement grandir, en dépit de tout, de toutes ces choses incompréhensibles et qui t'étaient contraires.
Père.
Je n'étais pas fait pour être le père d'une telle enfant. Aujourd'hui, bientôt, d'ici peu, ce ne sera plus tout à fait une enfant. Elle a grandi. Mais moi, je ne serai toujours pas fait pour être son père.
Je pétris la pâte à gâteau et je pense à toi. Tes visages butés et candides, à tous tes âges, se superposent et m'absorbent. Je suis heureuse. Je sais que tu es là, en ce moment, à quelques mètres derrière mon dos, sur le canapé vert du salon, à regarder la lumière, les paupières mi-closes. Et cette image est comme la photo de couverture de tous mes souvenirs que je feuillette à présent.
Elle a toujours été frappée d'une forme de débilité sur laquelle jamais personne n'osa réellement poser de nom. Comprendra-t-elle seulement que nous nous réjouissons aujourd'hui pour son anniversaire, nous qui l'avons portée à bout de sacrifices?
Moi, ta mère, je le sais. Quand tes yeux transpercent, quand ton regard nous file entre les doigts, c'est que tu comprends des choses que nous ne comprendrons jamais.
La comprendras-tu seulement, notre joie simple de ce jour? Dis, sauras-tu seulement la partager? Presque toutes les nuits, je rêve que Maud est de nouveau enceinte, et je me réveille en sueur. Parce qu'au moment où je vais poser la main sur son ventre, c'est encore et toujours tes yeux, Isaure, que je crois apercevoir à travers la paroi de sa peau. Tes yeux, Isaure, qui ont certes la couleur des miens, mais qui n'ont pas leur regard. Non, ce regard assurément n'est pas à moi. Où suis-je passé en toi? Où?
Dans tes tresses, au soir des jours de printemps, on retrouve toujours des choses inattendues. Quand tu as passé de longues heures dehors et que tu reviens, que tu t'assois sur le petit tabouret de notre chambre pour que je te brosse, quand mes doigts défont les tresses faites par eux le matin, il y a toujours, entre les mèches, de petits trésors. Du pollen, des pétales de pissenlit, des bouts d'écorce, des brins d'herbe et même, quelquefois, un petit perce-oreille. Dis-moi, ma petite fille, comment fais-tu pour récolter tout cela? Pourquoi ces choses s'attachent-elles ainsi à toi quand tu vagabondes? C'est au cœur même des boucles qu'on les retrouve, enfoncées entre tes cheveux noirs. Au début, j'avais peur. Maintenant, j'en rigole. Et je te montre ces trouvailles pour que tu répondes à mes rires. Toi, toujours tu me rends un sourire, comme si tout cela était naturel. Et parfois même, tu rougis, comme si, par là, tu voulais me donner à voir un bout de ton intimité, pourtant si difficile à atteindre.
Ces larmes, surtout, me font peur et me sont étrangères. Impossible de se reconnaître, ni pour moi, ni pour personne, dans ces larmes-là. Quelquefois, on croirait des larmes acides ou la résine d'un feu. Elles coulent sur son visage avec une telle souffrance et pour des causes tellement inexpliquées ou absurdes que toute consolation paraît d'avance inutile. On ne peut parler de caprice. On a presque envie de parler de deuil. C'est dans les larmes que l'on pressent la douleur qui doit être la sienne. Une douleur indescriptible, au-delà de tout. Pas au-delà en intensité, non. Simplement, elle prend place hors de là où gisent les douleurs ordinaires. Celle-ci se situe plus loin, plus profond, sur une autre couche, proprement indéracinable. À côté de toute vraisemblance. Vissé à son être par des vis de fer.
Dès qu'elle s'aperçoit qu'elle a laissé voir sa plaie, elle se rétracte, avec une pudeur farouche, et, par un miracle de sa constitution, aussitôt elle devient joyeuse, d'une joie sincère et éclatante. Une joie qui débute par une sorte d'excuse de s'être laissé voir et qui finit en une réelle hilarité d'enfant.
Ou bien tout à l'inverse, elle pleure à torrents, toujours sans qu'il n'y ait rien à faire pour la calmer. En réalité, dans ces moments-là, elle semble presque soulagée. Elle semble profiter à fond de cette métamorphose de la douleur en tristesse. Et, dans la peine comme dans la joie, elle se livre entièrement à son émotion, jusqu'à en être tout à fait vidée.
Parfois, elle ne le sait pas, mais je la regarde danser. Elle danse seule et sans musique. Elle se lève et elle pousse tout le bric-à-brac du grand tapis de sa chambre. Elle tasse tous ses trésors dans les coins, avec ce qu'on pourrait prendre pour de la négligence, mais qui n'en est pas. Et puis, ses petits pieds se mettent à marteler le sol avec une grâce inexpliquée. C'est là que je m'approche pour regarder.
D'ordinaire, Isor, à ses 13 ans encore, a des gestes qu'on dirait gauches ou mal assurés. Elle n'a pas de méthode pour saisir les objets, cuillère, savon, stylo, écharpe. Et elle fait tout à sa manière, renouvelant chaque fois selon son désir un stock de mouvements inépuisables. Normalement, ce genre de geste est univoque, appris par cœur sur les autres. Mais pour cela, comme pour le reste, Isor n'apprend pas. Elle reste. Elle veut rester fermement dans son idée propre du mouvement. Un mouvement sans morale et sans passé, qui se moque éperdument des millénaires de civilisation qui l'ont précédée. Elle n'adopte ni les gestes de son âge, ni les gestes de son sexe, se fichant bien de ce qui est convenable comme de ce qui est utile.
Lorsqu'elle danse, un rythme entre en elle qui ne la quitte plus. Chaque mouvement est à sa juste place, dans une harmonie subjugante. Ce n'est ni une valse, ni un tango, ni du jazz, ni un foxtrot. C'est tout son corps qui devient la musique qu'elle a dans la tête. Et quelle musique ce doit être ? Presque inaudible. C'est comme tous les rythmes africains à la fois, battus sur tous les tambours du monde, qui la déchirent en tous sens, selon une arithmétique indéniable, mais terrible. Chaque membre vibre, avec tantôt une énergie distincte, tantôt un même élan. C'est comme les 8 bras des pieuvres, chacun son cerveau, mais coordonné certaines fois par la tête, quand une même nécessité les rassemble. Tout peut changer d'une seconde à l'autre, et 2 minutes consécutives ne se ressemblent jamais. Mais, à force de la regarder faire, j'ai fini par percevoir que chaque danse tend irrésistiblement vers un bercement. Aucune ne dure plus d'une heure. Et déjà, toujours, à mi-chemin, quelque chose commence à poindre. C'est une couleur qui monte à l'horizon, qui enfle avec douceur. Les gestes deviennent fluides, comme récités. La danse est alors pratiquement une prière qu'elle aurait eue en elle depuis longtemps, qu'elle aurait eu le temps de méditer, de mâcher, et qui finit par sortir. Le tout se termine en une régularité lancinante et majestueuse, comme si elle avait dansé sur de la musique classique. Puis, son petit corps s'arrête de bouger et s'allonge sur le tapis, immobile, le sourire aux lèvres.
Isor a toujours refusé d'apprendre, d'aussi loin que nous en avons le souvenir. Elle n'a pas voulu apprendre à parler. Elle n'a pas voulu apprendre nos noms. Jamais. Nous souriant depuis son berceau, comme les autres enfants, elle ne sait écrier tout en joie « Papa !» ou « Maman !» Jamais un mot, aussi petit soit-il, qui ait du sens ou qui nous soit adressé. Elle a refusé d'apprendre à manger autrement qu'avec les mains. Elle a refusé d'apprendre le dessin, la musique, l'équitation ou quoi que ce soit d'autre. Jamais nous n'avons songé pouvoir l'envoyer à l'école, et les médecins étaient bien forcés d'être du même avis.